Bonjour à vous tous, bienvenue. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec comme chaque jour initiative, création et patrimoine au menu. Aujourd'hui, nous découvrons à Chartres un projet de musée de la boulangerie. Nous rencontrons ensuite Naya, c'est une jeune chienne qui embellit la vie des élèves d'un lycée agricole du territoire de Belfort. Et enfin, nous visitons une confiserie dans la Loire. Mais avant tout cela, c'est maintenant l'actu de ce mercredi 6 février. Bonjour Denis Farouf.
Bonjour Frédéric Le Tournier, bonjour à tous.
Nous retournons dans le 16e arrondissement de Paris après l'incendie qui a fait 10 morts et une trentaine de blessés.
Avec des voisins qui se confient, qui ne soupçonnaient pas vivre aux côtés de cette femme visiblement malade. Avec aussi un psychiatre qui explique ce qui peut se passer maintenant.
Quand la Cour des comptes dégaine son rapport annuel, en général, ça fait un peu de bruit.
C'est le cas cette année, comme dans le passé. Un exemple dès maintenant, avant de détailler, Nicolas Ballu.
Oh, par exemple, les avantages liés à la fourniture d'électricité aux salariés d'EDF. Ça coûte des milliards d'euros, il faut les supprimer, dit la Cour des comptes.
Qu'est-ce qu'être français aujourd'hui? Une enquête apporte quelques éléments.
Et quelques inquiétudes aussi, Mélodie Pépin.
Oui, 50% des Français estiment qu'on a plus de divisions que de choses qui nous rassemblent.
Alors, on va détailler ça tout à l'heure avec vous.
Les journées sans téléphone portable débutent aujourd'hui.
Pour nous inciter à nous déshabituer, dire qu'à une époque, on chantait les louanges du téléphone tout court. Cela dit, c'était il y a longtemps.
Vous vous rappelez de Nemo, le chien du président Macron? Il a désormais son double en peluche.
Fabriqué dans une petite entreprise de l'Indre qui compte bien jouer sur ce coup de pub pour se développer.
Bienvenue à tous dans Une Heure en France.
Une Heure en France, Frédéric Le Tournier, Denis Farou sur France Bleu.
Une messe a eu lieu hier soir en l'église Notre-Dame d'Auteuil, dans le 16e arrondissement de Paris, à deux pas de l'incendie qui a fait 10 morts et une trentaine de blessés.
On sait maintenant que la femme, soupçonnée d'avoir mis le feu, était en état d'alcoolémie, qu'elle venait de sortir de l'hôpital psychiatrique où elle avait séjourné 14 fois en une dizaine d'années. On la connaissait finalement assez peu dans l'immeuble Benjamin Illy.
C'était bonjour, au revoir, si vous voulez, et ça s'arrêtait là, quoi.
De cette femme, de cette voisine, il ne savait presque rien.
Je la connais pas.
Arrivée récemment dans l'immeuble, elle avait séjourné à l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne à Paris. Là encore, ils n'étaient pas au courant, les habitants.
Je pensais même pas que c'était une femme qui avait fait... Elle a des antécédents psychiatriques, mais elle est jugée comme quoi elle est apte à vivre en communauté.
Comme Adam, 22 ans, 7e étage.
C'est dégueulasse, en plus elle a mis le feu, franchement... Je suis pas méchant, mais je souhaite tout le malheur au monde, franchement, plus sincèrement.
Et cette voisine, vous pourriez nous en dire plus sur qui elle est?
Disons que cette voisine, je l'ai croisée une ou deux fois.
Joséphine, du deuxième étage, même palier que la femme interpellée.
Finalement, j'ai vu que c'était quelqu'un qui avait des perturbations psychiques, parce que des gens qui veulent être tout de suite amis, puis qui veulent vous donner leur numéro de téléphone, qui ensuite vous disent « Ah oui, il faudra qu'on se voit, il faut que tu donnes des leçons à mon fils, etc. » comme si on se connaissait. Je l'ai vu juste une ou deux fois, mais bizarre, je veux dire.
Elle était menaçante ou pas?
Non, pas du tout. Paumée, voilà. Plutôt que menaçante.
Cette voisine qui intriguait avait déjà fait l'objet de deux plaintes en 2016, notamment dans une affaire de magasin incendié. Ces deux plaintes ont été classées sans suite.
Benjamin Illy avec les voisins de l'immeuble dans le 16e arrondissement de Paris.
La femme en question est prise en charge à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Avec une question évidemment, sera-t-elle jugée ou déclarée irresponsable de ses actes?
On n'en est pas là, ça risque d'être long, mais les deux options sont évidemment possibles, dit ce psychiatre, ancien expert devant les tribunaux, Pierre Lamotte.
Alors, il est encore bien trop tôt pour le dire. J'ai un peu tendance à considérer historiquement que chaque fois qu'un geste est extrêmement spectaculaire et qu'on a un certain nombre de morts, on aboutit à une irresponsabilité pénale parce qu'on n'arrive pas à imaginer que les conséquences d'un geste ordinaire puissent être si extraordinaires. Mais ce qu'on sait déjà, et entre autres les antécédents, le fait qu'elle ait eu plutôt des problèmes de caractère ou de troubles du comportement, laisse à penser qu'il n'est pas impossible qu'elle soit responsabilisée, qu'elle assume la responsabilité de ses actes.
Pierre Lamotte, psychiatre et ancien criminologue.
Le français Alstom et l'allemand Siemens voulaient fusionner pour créer un géant du ferroviaire, ça ne se fera pas.
La Commission européenne, qui dit craindre moins de concurrence et des prix qui grimpent pour les compagnies ferroviaires et les consommateurs, a mis son veto. Pour la France, c'est une erreur. Au vu de la concurrence avec la Chine, les syndicats, eux, craignaient des suppressions de postes avec cette fusion.
Le Sénat, droite et gauche confondus, s'est opposé à la privatisation d'Aéroports de Paris.
En prenant notamment, pour exemple, le désastre financier de la privatisation des autoroutes. Même refus pour la Française des Jeux. Mais le dernier mot reviendra à l'Assemblée nationale qui avait adopté cet article en première lecture.
À propos de gestion de l'argent public, la Cour des comptes est chargée de contrôler les comptes et de mettre en lumière les exemples de mauvaise gestion.
Et quand elle dégaine avec son rapport annuel, comme c'est le cas ce matin, ça fait toujours grincer des dents chez les concernés. Les trains, l'hôpital, les pompes funèbres et la radio publique sont aussi dans le collimateur cette année. Vous commencez par où, Nicolas Ballu ?
Bah, où vous voulez. Disons que les critiques envers certaines structures publiques sont globalement déjà connues.
Alors allons-y avec les urgences hospitalières.
Certains services, la nuit, ont une trop faible activité. Elles ne permettent plus d'assurer la permanence des soins dans des conditions financièrement acceptables. Ces urgences doivent évoluer, dit la Cour.
L'État est mal armé pour garder la gestion des trains intercités, dit la Cour des comptes.
Ouais, il ne peut pas y consacrer beaucoup de moyens. Donc, ce qu'on appelle les lignes d'aménagement du territoire, comme Nantes, Lyon ou Toulouse-Hendaye, par exemple, eh bien, ces lignes doivent être transférées aux régions.
EDF ?
Eh bien, la Cour estime que l'avantage énergie offert aux employés et aux ex-salariés coûte des milliards d'euros au groupe français. Il faut donc le supprimer.
Radio France, c'est-à-dire nous ?
Eh bien, on continue dans le même style. Des efforts sont faits, mais les salariés doivent travailler plus. Et le chantier de rénovation de la Maison Ronde dérape.
Travailler plus. Les pompes funèbres.
Ces pompes funèbres, elles sont opaques et elles sont mal contrôlées. Il faut resserrer la vis pour mieux contenir la hausse des prix.
Et puis certaines politiques publiques sont épinglées.
Voilà, oui, notamment la lutte contre la fraude au travail détaché. Alors qu'il n'y a jamais eu autant de travailleurs détachés, plus de 500 000 en France aujourd'hui, les sanctions sont insuffisantes, écrivent les sages.
Et la Cour met finalement le gouvernement au défi de baisser les dépenses.
Et oui, les finances publiques sont fragilisées par les mesures que l'exécutif a annoncées face au mouvement des gilets jaunes. Dépenses nouvelles et baisse d'impôts, la Cour s'inquiète du fait que le gouvernement n'a pas vraiment apporté de précision sur les économies annoncées pour compenser au moins en partie ces mesures, sans compter la dégradation de la conjoncture économique internationale. À vrai dire, c'est finalement toujours un peu le même portrait de la France que dresse la Cour des comptes.
Merci Nicolas Ballu.
Qu'est-ce qui nous rassemble et qu'est-ce qui nous divise dans la société française ? La question est d'actualité en ces temps mouvementés.
Un début de réponse est apporté par cette enquête Ipsos réalisée au mois de janvier. Et ce qui fait mal, Mélodie Pépin, c'est qu'à première vue, avec certains sondages réalisés sur 1000 et quelques personnes, ce qui nous sépare serait plus fort que ce qui nous rassemble.
Oui, l'avis de 55% des Français interrogés et la fracture est surtout sociale, plus qu'identitaire ou territoriale. Le deuxième élément assez révélateur, 4 Français sur 10 ont le sentiment de ne pas appartenir à une communauté française. C'est encore plus fort en milieu rural et chez les classes populaires.
Alors ça fait quand même 6 sur 10 qui eux se sentent français. Et comment on fait d'ailleurs pour savoir si on se sent français ou pas?
Bonne question, je vous la retourne. C'est quoi pour vous être français?
Bah, vous êtes gentil. La langue, parler français?
Par exemple, c'est un élément, mais ça va vous surprendre. La langue arrive loin derrière les valeurs de la République dans ce sondage. Les valeurs, liberté, égalité, fraternité, ces valeurs devancent aussi le fait d'avoir la nationalité française. En revanche, à la question, quel élément pour rassembler les Français? C'est bien la langue qui arrive en tête, avec l'école publique et gratuite. L'histoire de France arrive en 7e position, devant le drapeau et l'art de vivre.
La question de l'immigration est aussi posée. Est-ce que c'est une menace ou une richesse?
Grosso modo, c'est 50-50 dans les réponses. Mais la perception de l'immigré se durcit. 2/3 pensent que les immigrés ne font pas d'efforts pour s'intégrer. Un sondage commandé par les préfets qui constate depuis plusieurs années un affaiblissement de notre appartenance commune. Une fois qu'on a dit ça, il y a deux camps, les résignés et ceux qui croient encore à la reconquête républicaine.
Ce n'est pas très rassurant ce que vous nous dites, mais merci quand même d'être venu, Mélodie Pépin.
13h09 sur France Bleu, la suite du Nord en France, ce sera sans téléphone à portée de main, du moins si l'on tient à ces journées sans téléphone portable. Ce sera avec une peluche fabriquée dans l'Indre qui est arrivée à l'Elysée et qui est en vente. Le temps de passer par Lyon ou Villefranche-sur-Saône, l'équipe de football de 3e division rencontre le PSG en fin d'après-midi.
Dans le stade où les Parisiens ont perdu il y a 3 jours. Là, c'est la Coupe de France avec le traditionnel petit pousset qui défie les Mbappé ou Cavani. Évidemment que ça ne sera pas simple, allez savoir pourquoi, on a une pensée pour le gardien de Villefranche, Antoine Philippon.
Ah oui, il va falloir être bon, il va falloir être décisif. Le poste de gardien de but, c'est tellement ingrat qu'on peut très bien faire des miracles pendant 80 minutes. Et puis sur le dernier ballon, il faut être concentré sur ce match à 600% parce que ça peut venir de partout. On sait qu'ils adorent mettre des centres fuyants devant le but. On sait qu'avec un Cavani dans la surface, c'est voilà, c'est une occasion un but. Donc on, voilà, moi je vais essayer de tout faire pour déjà essayer de pas prendre ce premier but et puis essayer de garder ma cage inviolée le plus longtemps possible dans le match. Puis on verra bien ce qui se passera.
On verra bien ce soir les autres rencontres. Rennes-Lille et Vitré contre Lyon-Duchère. Lyon, l'Olympique Lyonnais, joue demain à Guingamp. Hier, Dijon, Orléans, Nantes et Caen se sont qualifiés pour les quarts de finale.
Et on n'oublie pas de signaler la victoire de l'OM face à Bordeaux.
Bien vu Frédéric. Ouais, Marseille a gagné et ça n'arrive pas souvent en ce moment. C'était un match en retard de Ligue 1.
À quoi tient le développement international d'une PME française? Eh bien peut-être à une peluche. Emmanuel et Brigitte Macron ont commandé aux Petites Maries, une entreprise de Châteauroux, une peluche à l'effigie de leur chien Nemo, adopté dans un refuge des Yvelines.
Et une peluche présidentielle, ce n'est pas une peluche tout court.
Non.
Déjà, elle coûte 99 euros. Elle est en vente sur le site de la boutique de l'Élysée, d'où la fierté et des espoirs de développement des Petites Maries à Châteauroux, Frédéric Denis.
Assise devant une grosse machine en fer, Madeleine donne vie à Nemo après avoir cousu les différentes parties de son corps.
Je suis en train de remplir le petit chien avec une matière fibreuse pour lui donner sa forme définitive, son volume.
La peluche du chien présidentiel mesure 30 cm, elle arbore un médaillon tricolore suspendu à un petit collier rouge. Madeleine, 42 ans d'ancienneté dans la peluche, a eu le privilège d'assembler le premier exemplaire.
C'est un signe de reconnaissance de notre savoir-faire qui date depuis 1963. C'est une fierté de faire valoir notre travail.
L'Élysée a passé une commande pour 1000 pièces aux Petites Maries, soit environ 3 mois de travail. Jean-Paul Perdereau, responsable commercial, espère que ce coup de projecteur présidentiel attirera maintenant l'attention de clients étrangers.
Nous, ce qui nous manque, c'est une image à l'international. On travaille très peu à l'export, à part un peu au Japon. Alors que là, un chien labellisé, produit français, avec certificat Élysée, ça, au niveau international, ça peut être très important pour les Petites Maries.
Important pour faire grossir l'entreprise Castelroussine qui emploie aujourd'hui 8 salariés. Des ouvrières qui, comme Madeleine, attendent maintenant un retour du couple Macron sur leur travail.
Si les Petites Maries ont un petit coucou du président, on sera contente.
Frédéric Denis et la peluche présidentielle à Châteauroux.
La peluche fait 26 cm, elle est absolument adorable. Elle est livrée dans son sac en tissu marqué Nemo, le chien du président. Et coûte donc quand même presque 100 euros.
Lavable en machine.
L'histoire ne le dit pas, Denis.
France Bleu Berry s'est renseigné. Il y a un précédent, les Petites Maries à Châteauroux avaient déjà créé une peluche pour le mariage de Nicolas Sarkozy. Une question maintenant, Frédéric, on faisait comment avant?
Avant quoi?
Avant le téléphone portable.
Différemment.
Oui, on faisait comment avant?
C'était plus compliqué, on se donnait des rendez-vous. C'était la patinoire, c'était les éléphants, c'était des endroits. Déjà, en plus, on faisait bosser les commerces parce qu'on se donnait rendez-vous dans des bars, dans des cafés. On avait des choses à se dire quand on se voyait.
La première fois que j'ai eu mon permis, que je suis partie en vacances, j'ai préparé mon trajet avec la carte routière du point A au point B, puis je regardais par où je devais passer, puis je le notais sur un papier, et puis je faisais mon programme comme ça.
Oui, il y avait l'appareil photo, oui. C'était long. Le temps de cadrer, ceci, cela, voilà, ouais, non, c'est plus, ouais, c'est là, on prend 30 photos, il y en a une qui est bonne, et puis c'est parfait, quoi.
Je prenais un Walkman. C'était un truc où où on mettait des disques, où toutes les musiques étaient enregistrées, et on écoutait ce qu'on avait mis dessus, quoi, en fait.
Et voilà, on se pose la question à Chambéry, d'où la référence à la Fontaine des éléphants, comme ailleurs d'ailleurs, en séjournée sans portable. Alors que 8 Français sur 10 disent consulter leur smartphone pendant le repas et 4 sur 10 le regardent la nuit.
Nous sommes donc des nomophobes, c'est-à-dire dépendants du téléphone avec des risques d'addiction non négligeables.
C'est un chanteur burkinabé à la sagesse africaine qui le dit. Le téléphone portable, c'est comme le bon manger. Quand on abuse, je vous laisse découvrir la suite.
Le téléphone portable, c'est comme le bon manger.
Chaque chose a son temps.
Le téléphone portable, c'est comme le bon manger. Quand on abuse, ça provoque la diarrhée.
ZS et le téléphone portable. Oh non, Frédéric, pas aujourd'hui, votre téléphone.
Non, il sonne pas comme ça.
Quand même.
Mais Zedès est un vrai poète, hein, c'est bon de le souligner. Allez, nous allons à Chartres dans un instant, dans le territoire de Belfort et dans la Loire.
Avec un musée de la boulangerie en ligne de mire, un chien ami de lycéens et des bonbons. Après la météo du jour.
FranceBleu.fr. Tout France Bleu en replay, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr.